RPL, votre radio Lorraine.
Votre radio Lorraine.
Nous allons parler d'un livre qui explore la richesse de notre langue et ses racines parfois insoupçonnées. Sacrée expression de Stéphane Gaden qui nous montre comment des phrases que nous utilisons tous les jours trouvent leur origine dans la Bible, oui, ou encore dans l'univers chrétien. Pour en discuter, nous recevons donc Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous, à vos auditeurs et à vous-même. Merci de me recevoir.
Et merci à vous d'être avec nous ce matin. Donc nous parlons de sacrées expressions. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur les expressions françaises alors que vos précédents ouvrages portaient sur l'écologie ou encore sur l'argent?
Bah, je dirais que j'ai plein de centres d'intérêt. Et bah, je ne me cantonne pas à un sujet de prédilection dans mes écrits. Un monde sans valeur, qui était mon premier essai, évoquait l'idée d'un monde duquel l'argent aurait disparu. Mon deuxième, c'était écologie en péril. Ça traite notamment de la perte de la biodiversité, toutes ces espèces vivantes qui disparaissent sans même qu'on s'en rende compte. Et là, pour sacrée expression, c'est en consultant l'évangile, que je reçois chaque matin par mail, que je me suis rendu compte que régulièrement, je tombais sur des expressions que nous utilisons encore aujourd'hui. L'idée m'est donc venue naturellement d'en faire un recueil.
Alors, vous en analysez plus de 200. Comment qu'on fait pour choisir celles qui figurent dans l'ouvrage ?
J'ai pas vraiment fait de tri, en fait. Dès qu'une expression me venait, ou que j'en entendais une à la radio, d'ailleurs, ou à la télé, je la notais. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je pensais avoir fini cet ouvrage quand je suis arrivé à 150 expressions. Mais alors que je finalisais l'écriture, d'autres expressions me venaient au fil des jours. Au bout de quelques semaines, arrivé à plus de 200, j'ai décidé de vraiment m'arrêter parce que, voilà, malgré celle qui me venait encore en tête, j'ai dit, bon, allez, 200, on est bien.
Ou alors, on fait plusieurs tomes.
Ou alors, on fait plusieurs tomes, mais après, je n'étais pas sûr de pouvoir faire un deuxième tome quand même. Donc.
Est-ce qu'il y a certaines expressions que vous avez justement découvertes en cours de recherche qui vous ont particulièrement surpris ?
Bon, quand je regarde dans l'ensemble, pas tant que ça. Il y en a quand même une, par exemple, c'est « regretter les oignons égyptiens ». Celle-là, j'avoue que je ne l'avais pas. Je ne sais pas, elle vous dit quelque chose ?
Non, rien du tout.
Non, mais en fait, ça signifie idéaliser une situation passée, même si, objectivement, elle était mauvaise, simplement parce qu'elle semblait plus confortable que le présent. Cette expression, elle nous vient en fait de l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, quand les Hébreux, qui étaient fraîchement libérés et sortis d'Égypte, errent dans le désert et râlent. Ils disent « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. » Voilà, et donc ils regrettent les oignons égyptiens. Mais pour en revenir à votre question, il y en a surtout des expressions que je connaissais sans savoir qu'elles se trouvaient dans la Bible. Je pense notamment à « semer la zizanie ». Cela vient en fait du grec « zizanion », que le latin a traduit ensuite par « zizania ». On peut le traduire aujourd'hui par « ivraie », qu'on retrouve dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Mais je peux aussi citer comme ça la volée « rien de nouveau sous le soleil oui. »,« se voiler la face »,« j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux »,« faire deux poids deux mesures »,« telle mère, telle fille », enfin bref. Il y en a un paquet que j'ai découvert et qui se trouve dans la Bible, pardon.
Il y a certaines expressions qu'on utilise comme « tendre l'autre joue ». Alors, est-ce que c'est par rapport à Jésus qui tend la joue ou rien à voir ?
Alors oui. Oui, tout à fait. Donc, tendre l'autre joue, notamment, c'est une phrase qui est prononcée par Jésus dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. Il dit exactement « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Voilà, il invite en fait à désamorcer l'agression d'une part, mais aussi à dérégler la logique de la vengeance, en proposant un autre rapport à la justice.
Il y a aussi « l'enfer est pavé de bonnes intentions ».
Oui, tout à fait. Ben alors, votre exemple en plus est très, très bien, parce que la première, tendre l'autre joue, se trouve dans la Bible, et l'autre est issu plutôt du vocabulaire chrétien maintenant. Et mon livre se divise justement en deux parties, avec des expressions issues de la Bible, et l'autre, qui sont qualifierait de chrétiennement teinté. Alors la deuxième expression que vous citez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, en fait, elle est attribuée à Saint Bernard de Clairvaux, qui vivait au XIIe siècle et qui écrivait « L'enfer est plein de bonne volonté ». Voilà, il voulait dire que la foi et la charité ne peuvent pas se réduire à des intentions pieuses si elles ne se traduisent pas en actes véritables, vertueux et éclairés.
Selon vous, parmi toutes les expressions françaises qui viennent de la Bible ou de la culture chrétienne, comme on vient de le dire, laquelle est la plus représentative aujourd'hui dans notre langage quotidien ?
Alors, la plus représentative, je ne sais pas, mais il y en a une qu'on entend souvent, c'est « je ne crois que ce que je vois ».
Oui, comme ça, voilà. Thomas, oui.
Voilà, cette expression remonte, voilà, exactement, directement à l'épisode concernant l'apôtre Thomas, en effet. Et épisode qui est relaté dans l'évangile selon Jean. La formule que l'on entend généralement de nos jours est d'ailleurs, en effet, « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Ce que dit ce passage de l'évangile, c'est qu'après la résurrection de Jésus, Thomas refuse de croire ses compagnons qui affirment avoir vu le Christ vivant. Il déclare alors « si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai point ». Voilà. Et puis, 8 jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau alors que Thomas est présent et l'invite à toucher ses plaies. Thomas croit enfin, ce à quoi Jésus répond « heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». L'expression provient de cette tension entre la foi et la preuve.
Dans votre livre, vous proposez une analyse en 3 temps, l'usage actuel, l'origine religieuse et de l'humour aussi, il faut le dire. Pourquoi ce choix de structure ?
J'ai choisi cette structure en 3 temps parce que je me suis dit qu'elle permettait de vivre et de faire vivre surtout les expressions de manière complète. D'abord, je montre comment elles sont utilisées aujourd'hui dans la vie réelle. Ensuite, je remonte à leur origine religieuse, ça permet d'expliquer leur sens premier. Et enfin, j'ajoute une touche d'humour parce que, expliquer cette expression ne doit pas être austère. Donc le rire, ou tout du moins le sourire, permet d'alléger le propos et de montrer que même si les mots ont une histoire sérieuse, on peut les aborder avec légèreté et curiosité.
Donc c'était important pour vous de garder un ton amusant, ludique et accessible à tous ?
Ah oui, ouais. C'était essentiel pour moi. Comme on peut le voir d'ailleurs dans ce livre, les expressions que nous utilisons tous les jours sont parfois très anciennes. Et si on les aborde de façon trop académique, on risque de perdre le lecteur en route. L'idée, au contraire, était de montrer que la langue est un terrain de jeu. Chacun peut s'y amuser, s'y étonner, y découvrir des histoires inattendues. Je dirais qu'en gardant un ton simple et ludique, je voulais que le lecteur retrouve le plaisir, presque enfantin, de manipuler les mots, de comprendre d'où ils viennent et de s'approprier leur sens. Pour moi, la connaissance n'a d'intérêt que si elle donne envie d'aller plus loin. Elle doit être accessible au plus grand nombre.
Pourquoi c'est important pour vous de préserver ces expressions dans notre quotidien ?
Je dirais que préserver ces expressions, c'est un peu comme garder ouverte notre mémoire collective. Elle transporte des siècles d'habitudes, de croyances, de visions du monde, mais elle continue pourtant de vivre dans nos conversations les plus quotidiennes. Si on les laisse disparaître, on perd non seulement de jolies tournures, des tournures de phrases, mais aussi des fragments de culture qui nous relient les uns aux autres. Ces expressions servent de repères, d'images, d'humour partagé. Elles sont un pont entre les générations. On les entend chez nos grands-parents et puis elles ressurgissent des fois dans la bouche d'un enfant et tout le monde comprend. En somme, préserver ces mots-là, c'est préserver un peu de nous-mêmes.
Je confirme, oui, c'est vrai. J'entends des enfants de 15 ans parler comme des personnes de 90 ans.
Ça arrive encore.
Oui, ça fait bizarre, mais c'est assez agréable. Alors, à qui s'adresse ce livre ? Aux passionnés de lecture, de langue, aux enseignants, aux croyants, aux simples, aux curieux ou aux athées aussi ?
Je crois bien que la réponse se trouve dans votre question. Ouais. En fait, ce livre s'adresse à un public beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Bien sûr, les passionnés de langue y trouveront leur bonheur, parce qu'on y décortique des expressions qu'ils utilisent déjà avec plaisir. Les enseignants peuvent aussi s'en servir comme support pour éveiller la curiosité, car chaque expression devient une petite porte ouverte sur l'histoire, la culture ou la religion d'ailleurs. Mais il ne s'adresse pas seulement aux spécialistes. Les croyants y reconnaîtront des références familières. Et puis les simples curieux, eux, y verront une façon ludique de comprendre pourquoi certaines formules traversent les siècles. En réalité, je pense que Sacrée Expression est fait pour tous ceux qui aiment comprendre ce qu'ils disent, même sans s'en rendre compte, et qui aiment se laisser surprendre par la richesse de notre langue.
Vous pensez que ces expressions continueront à vivre pour toutes les générations futures, les années à venir ?
Oh oui, je pense que ces expressions, elles ont encore de beaux jours devant elles, même auprès des générations futures. La langue évolue, bien sûr, mais elle ne fait pas... Elle ne fait jamais vraiment table rase. Elle recycle, elle transforme, elle réinvente. Et ces expressions ont un avantage considérable. Elles racontent des histoires. Or, les histoires, les jeunes les adorent. On le voit déjà, certaines formules anciennes reviennent dans les séries, sur les réseaux sociaux, parfois même détournées avec humour. Tant qu'il y aura des gens pour jouer avec les mots, pour rire des images qu'elles évoquent, ou pour s'étonner de leur origine, elles continueront à vivre. Et ce livre peut contribuer à les transmettre, même un tout petit peu, alors la chaîne ne sera pas prête de se briser.
Est-ce que vous envisagez une suite, ou peut-être sur d'autres sources culturelles ou d'expressions populaires ?
Alors, c'est pas prévu pour l'heure. Ouais. Et puis vous l'avez noté vous-même au début de cet entretien, mes ouvrages sont jusqu'à maintenant en tout cas très différents les uns des autres, et j'ai pas encore de thématique pour un éventuel nouvel essai.
Y a un message à faire passer pour les lecteurs ?
Moi, ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent après avoir refermé Sacré Expression, c'est le sentiment d'avoir redécouvert quelque chose qu'ils croyaient connaître, que chaque expression, même la plus banale, puisse soudain leur révéler une histoire, une image ou une origine jusque-là insoupçonnée. Mon souhait, c'est qu'ils se disent « la langue française est un trésor vivant et je viens d'en découvrir une nouvelle facette ». Et puis surtout qu'ils réalisent que ces tournures venues du fond des âges ne sont pas des reliques. Elles continuent de nous parler, de nous faire sourire, parfois de nous émouvoir. Si après la lecture, ils prennent plaisir à écouter autrement les mots qu'ils utilisent chaque jour, alors j'aurais vraiment atteint mon objectif.
Alors, je conseille aux auditeurs de le lire. Je l'ai lu, j'ai découvert...
Ah, je vous remercie.
Oui, quand même. J'ai découvert certaines expressions, j'ai découvert d'autres expressions que j'avais mal interprétées.
Ah oui, aussi, voilà. Il peut y en avoir, tout à fait, oui.
Donc,
ouais, très bien.
Bon, surtout une que j'ai beaucoup appréciée, être un cul béni. Bon, voilà.
Oui, être un cul béni. Donc ça se trouve en effet dans les expressions chrétiennement teintées. Elle ne se trouve pas dans la Bible, celle-là.
Oui, voilà. Où est-ce que l'on retrouve cet essai sur les réseaux, sur des plateformes, sur Internet?
Exclusivement en fait sur une plateforme que les gens connaissent bien, c'est Amazon.
Ouais.
Donc voilà, il est uniquement sur Amazon disponible. Je précise d'ailleurs qu'il y a un prix de lancement jusqu'au 31 décembre 2025. Donc voilà, un petit cadeau idéal à faire ou à se faire pour Noël. Voilà, et puis pour conclure, je dirais que si vous aimez la culture, la langue française ou simplement l'art de comprendre ce que vous dites, alors ce voyage dans nos expressions vous parlera, j'en suis certain. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chaleureusement. Et puis surtout, ouvrez l'oreille, la langue française a encore beaucoup de secrets à vous confier.
Exactement. Merci Stéphane pour cet éclairage passionnant.
Merci Géraldine,
Sacré Expression, donc on rappelle, c'est le titre, un livre à mettre entre toutes les mains, des curieux passionnés et surtout dans le sac du Père Noël.
Voilà, exactement.
Tant qu'à faire. Merci Stéphane, je vous souhaite une belle journée et à bientôt avec
un
nouvel
journée.
Essai.
Ouais, peut-être. Allez.
Au revoir. À bientôt.
RPL.